Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit du monde d'où vous nous écoutez. Chaque année, et c'est devenu un rendez-vous maintenant incontournable, chaque année, l'Institut de France remet des grands prix, les grands prix de l'Institut, durant la première semaine de juin. En cette année 2010, ce sera le mercredi 9 juin. Et chaque année, Canal Académie fidèle vous donne rendez-vous pour la retransmission intégrale de cette cérémonie importante. Pour la présenter, c'est aussi maintenant un rendez-vous incontournable. J'ai le plaisir de recevoir M. Gabriel de Breuil, membre de l'Académie française, de l'Académie des sciences morales et politiques et chancelier de l'Institut de France. Monsieur le chancelier, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints dans notre studio.
C'est un grand plaisir.
Ces grands prix, c'est un événement, c'est l'événement de l'année de l'Institut de France. Cette année, là, vous aviez peut-être envie de présenter ces grands prix et leur importance d'une manière un peu spécifique. L'année dernière, vous aviez évoqué le nouveau visage du mécénat. Est-ce que cette année, vous pouvez nous dire quel sera le thème de votre intervention ?
Eh bien, à force de dire qu'une tradition est en train de se créer, elle est créée.
Elle est créée, ça y est.
Ça y est. Et la cérémonie de remise des grands prix est devenue une des grandes cérémonies de l'Institut qui se déroule sous la coupole, avec les académiciens en tenue d'habit vert et avec toute la solennité désirable. C'est l'occasion de rendre hommage à cette communauté vivante, humaine et en grand développement, très intéressante, qui est celle des fondations abritées à l'Institut de France et qui comprend trois parties. Les fondateurs, avec autour d'eux les membres des jurys qui décernent les prix. Deuxièmement, les lauréats, bien entendu. Et troisièmement, l'Institut de France et les cinq académies. La cérémonie va se dérouler selon un processus désormais bien établi. Avec cette amélioration depuis l'année dernière, c'est que chaque lauréat est présenté par un document vidéo qui a été tourné à l'avance sur les lieux mêmes, dans le laboratoire, sur les lieux de travail du lauréat, si c'est un scientifique, une recherche médicale.
On le voit dans son milieu pour lequel il a reçu le prix.
Entouré de ses disciples, de ses élèves, et la présentation du lauréat.
Autrement dit,
dans tous les cas, des personnalités remarquables. Remarquables. On dit que deux des grands prix qui sont décernés à cette occasion sont des prix Nobel, en réalité. Et le montant des prix est de l'ordre des prix Nobel. Donc c'est une cérémonie extrêmement importante. À la fois dans le domaine scientifique, les plus grands prix sont des prix scientifiques, mais aussi dans le domaine culturel, et d'autres grands prix très importants sont dans le domaine culturel, et enfin dans le domaine humanitaire ou de l'action sociale, où des prix sont développés chaque année et avec des thèmes tout à fait intéressants. Alors, depuis plusieurs années, j'ai l'occasion de présenter en quelque sorte le thème. Et il y a deux ans, j'avais donné à mon intervention le titre de « Le retour de la philanthropie
oui. »,
c'est-à-dire le développement d'une forme nouvelle, moderne, sans libérer de toute contrainte, de toute mauvaise conscience, s'affirmant. Et d'allure, peut-être, c'est un phénomène qui nous revient des États-Unis, puisque la philanthropie était née en France au siècle des Lumières, avait peut-être prospéré aux États-Unis d'Amérique au XIXe siècle et nous revient d'Amérique avec une vigueur très grande aujourd'hui. L'année dernière, j'avais développé un thème tout à fait aussi actuel qui est le métier de mécène. C'est-à-dire qu'il apparaît que pour les gens qui s'investissent dans la philanthropie ou le mécénat, eh bien, il ne s'agit pas de prendre son carnet de chèques et de signer un chèque, non.
Il faut s'y connaître, comme on dit. Les fondateurs
ont des idées, savent ce qu'ils veulent, recherchent, sélectionnent eux-mêmes et exercent une véritable expertise, une pré-expertise des champs qu'ils veulent investir et même quelquefois des laboratoires les plus en pointe, des scientifiques qui méritent d'être sélectionnés. Et donc, il apparaît un métier de mécène. Très intéressant d'ailleurs, qui motive beaucoup ceux qui abritent des fondations à l'Institut de France, aussi bien entreprises que particuliers. en particulier dans leur patrimoine, qui consacrent une partie de leur patrimoine à créer une action généreuse et philanthropique, très contemporaine, très moderne. C'est un mouvement très, très dynamique. Et cette année, je vais présenter une communication sur le thème « Les choix des mécènes ». C'est-à-dire, c'est la suite, n'est-ce pas, des précédentes, mais dans quel sens s'orientent les choix des mécènes aujourd'hui, ces nouveaux mécènes? Eh bien, je présente trois thèmes qui sont d'abord les choix des mécènes sont peut-être plus efficaces, animés d'un souci d'efficacité plus grande qu'aujourd'hui qu'autrefois, hier simplement. C'était un don désintéressé, sans recherche d'efficacité, sans retour, sans recherche de retour. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait ça. Il y a une préoccupation d'efficacité, à la fois dans la sélection et dans le...
Oui, c'est intéressant à noter, évidemment.
Tout à fait intéressant.
Tout à fait une évolution.
Bien précisément. Deuxièmement, les choix des mécènes sont plus solidaires qu'ils ne l'étaient précédemment. Solidaire, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui est pourvu d'un patrimoine important et peut-être en partie superflu qui voilà, se donne bonne conscience en se libérant d'une partie de son patrimoine. Non, c'est que c'est quelqu'un conscient et qui est conscient de la responsabilité collective, sociale que lui confère la détention de ce patrimoine et qui recherche une action solidaire qui n'est pas isolée, qui n'est pas solitaire. Et donc qui associe, qui cherche à associer des partenaires lui-même autour de lui pour exercer son action. Ces partenaires, ça peut être tout simplement les membres de sa famille, ses proches, et souvent ses enfants, pour associer ses héritiers à la démarche patrimoniale qui est celle de créer une fondation,
un institut. Qu'il y ait une succession,
c'est très intéressant
aussi,
pour assurer
oui.
la pérennité,
oui.
l'intérêt des plus jeunes générations et la pérennité. Mais ça peut être aussi pour une entreprise d'associer tout simplement ses collaborateurs en les motivant pour participer bénévolement à l'objectif d'intérêt général de la fondation qu'ils ont abritée à l'Institut. Et cela marche très très bien pour la sélection, pour la recherche sur le terrain, pour accompagner la démarche. Donc c'est une caractéristique tout à fait particulière. Et puis alors la troisième tendance moderne, c'est que les fondations les plus récentes abritées à l'Institut témoignent d'un souci plus général que le geste ponctuel sur une action déterminée. Les fondateurs, certains fondateurs, de grands fondateurs, s'adressent à l'Institut pour une démarche d'envergure sur des problèmes de réflexion en commun, de connaissance de notre société. Et on s'aperçoit que cette démarche-là, de grandes organisations tout à fait armées pour mener en leur sein une réflexion, bien entendu, quand il s'agit de très grandes entreprises ou de très grandes organisations qui sont elles-mêmes caritatives, elles ont tout ce qu'il faut pour mener une réflexion, mais elles désirent prendre un peu le champ, se détacher de leur action quotidienne sur le terrain et dire, voyons, où peut-on créer une structure de réflexion indépendante, pérenne, et dont les actions, dont les travaux auront un certain prestige à l'Institut de France, avec le concours et la valeur ajoutée des académiciens
qui s'impliquent énormément,
dans ces recherches.
Insister un peu sur le travail des membres du jury,
alors,
c'est
quelquefois une implication très grande, très volontaire, déterminée, facile à obtenir des académiciens autour de thèmes. Quels sont ces thèmes, ces grands thèmes? J'en cite quelques-uns rapidement. Connaissance de la pauvreté. Notre siècle est assailli par un phénomène dont, à la fin du 19e siècle, on pensait
qu'il
n'était plus
parti.
Tellement
oui.
actuel. La pauvreté, la grande pauvreté, que sait-on d'elle? Les archives de la pauvreté, une université de la pauvreté, ça n'existe pas. Les archives de la pauvreté, ça n'existe pas. Il y a des fondateurs qui se sont dédiés à l'exclusion, évidemment. Qu'est-ce que c'est que l'exclusion? Comment passe-t-on d'une situation précaire à une situation d'exclusion? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ça prend une chose dramatique. Les questions, par exemple, d'accès au logement. On n'en parle pas beaucoup. Enfin, on en parle évidemment, c'est un sujet. Mais l'accès au logement commande énormément de choses. Commence la possibilité de trouver un emploi, simplement. Qui n'a pas de logement, c'est très difficile de trouver un emploi. La structure familiale, le lien familial est forcément affecté, sinon détruit, par le fait de ne pas avoir de logement. Donc l'accès au logement est un élément social, un centre tout à fait... Et puis alors, il y a d'autres grands sujets généraux, par exemple le lien social. Ne connaît-il pas des faiblesses, une sorte de panne, alors qu'à certains autres moments, il a pu se renforcer? Tout ça, je donne des exemples, mais qui recouvrent des fondations précises. Et dans le lien social, on aura reconnu peut-être une très grande organisation universelle dont le thème fréquent d'intervention, c'est précisément le lien social. J'ai cité la Croix-Rouge. Le dernier thème que j'évoquerai, c'est que faut-il penser de nos jours de la conception de l'économie de marché ? Ne doit-on pas rechercher une conception renouvelée et peut-être un peu plus solidaire de cet élément fondamental de l'économie moderne, qui est tout simplement l'économie de marché, et que rien ne vient remplacer. Alors, ces trois thèmes donneront lieu, après la séance, au lendemain, à une journée de réflexion.
Que vous avez inaugurée, je crois, l'année dernière.
L'année dernière. Oui. Et c'est
une journée comme un colloque.
On appelle cette journée « Parole de fondation ». Cela se déroule à la fondation Del Duca, qui est une très belle fondation de l'Institut de France. On accueille au cours d'un après-midi, suivi d'une réception, justement les partenaires, c'est-à-dire les fondateurs, les membres des jurys, les académiciens et les lauréats. Et on fait des tables rondes, des ateliers d'abord, puis des tables rondes. L'après-midi entière se déroule autour de témoignages de fondateurs sur les trois thèmes que je viens de développer. Il y aura finalement trois tables rondes différentes qui se conjugueront pour terminer pour une séance terminale.
Cela vous paraît important qu'ils échangent entre eux ?
Oui, en tout cas, ça correspond pour eux-mêmes.
Ils sont heureux de le faire.
Ils sont heureux de le faire. Ça correspond à une attente.
De se connaître, d'échanger.
Ils ne sont pas de ne pas être seuls. Ce n'est pas une démarche solitaire. Encore une fois, ils participent à un mouvement qui est très vivant.
Ça crée un état d'esprit Institut de France aussi, spécifique.
Également.
Ce que vous souhaitiez instaurer.
Également. Un thème sous-jacent à cette rencontre Parole des fondations, c'est pourquoi les fondateurs viennent-ils abriter leur fondation à l'Institut de France ? Et cela, nous en sommes assez heureux et assez fiers, c'est que ça répond à leurs attentes et ils trouvent une grande satisfaction à toutes les attentes qu'ils ont. La formule qu'offre l'Institut de France est d'une souplesse, d'une efficacité, d'une sécurité, d'une pérennité, évidemment. Et ajoutons-le aussi d'un prestige que les fondateurs apprécient énormément. Et donc le mouvement de création de fondations nouvelles à l'Institut de France connaît, à travers les périodes difficiles que nous sommes en train de vivre, ne connaît pas du tout une crise, mais
plutôt un développement,
maintient plutôt de manière développée.
Quand vous réunissez ces fondateurs dans cette journée, ça fait à peu près combien de personnes, pour qu'on ait une idée de l'importance ?
150 personnes.
150 personnes, oui.
Ce qui est beaucoup.
Oui, oui.
Ce sont les acteurs de l'ensemble d'activités des fondations abritées à l'Institut de France.
Merci, Monsieur le Chancelier, de nous avoir éclairé sur les nouveautés 2010 de cette remise des Grands Prix de l'Institut de France qui aura lieu donc le mercredi 9 juin et que vous pourrez écouter sur Canal Académie dans sa retransmission intégrale. Merci infiniment d'être venu jusqu'à notre studio. J'espère que nous aurons d'autres opportunités de vous recevoir pour montrer combien l'Institut de France, justement, est actif dans bien des domaines un peu surprenants. Et je crois que là, vous nous avez ouvert des horizons dans ce sens.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Thank you.